Quand je reviendrai, je serai déguisée, je porterai un autre nom. Mon retour sera inattendu. Vous me regarderez incrédule et me direz « Tu n'es pas là ». Je vous montrerai des preuves et vous ne me croirez pas. Je vous parlerai du citronnier de votre jardin, de la fenêtre qui laisse filtrer le clair de lune, traces de corps, traces d'amour. Nous entrerons frissonnant dans notre ancienne chambre, entre nos étreintes, entre les appels des amoureux. Je te raconterai mon voyage la nuit durant. Et pendant toutes les nuits à venir, entre nos étreintes, entre les appels des amoureux, je te dirai l'aventure humaine, l'histoire qui ne finit jamais. Christophe Warlikowski est ce soir notre invité à l'occasion de sa mise en scène à Paris au Théâtre de la Colline de l'Odyssée, une histoire pour Hollywood. Et comme chaque soir, nous commençons en musique, ce sera America.
Love.
Vous aviez songé, Christophe Warlikowski, avant de devenir ce metteur en scène européen que vous êtes devenu, à être musicien, chanteur, travailler dans le rock. D'ailleurs, vos mises en scène sont très rock.
Non, l'expérience rock la plus forte, c'était... Il y a un festival en Pologne qui s'appelle Open Air. Et ça, c'était déjà quand je suis devenu metteur en scène. Ils étaient intéressés à faire venir aussi le théâtre dans le cadre de ce festival qui a duré une semaine avec plein de groupes du monde entier. Et c'est là-bas où j'ai rencontré Nick Cave qui avait son concert. Et alors là, j'avais même un projet de faire un spectacle sur Star Rock, qui serait basé sur Thomas Mann, Dr. Faustus. Donc, pas tout à fait la même chose, mais quand même, ça m'a fait penser à ça.
Avant de devenir metteur en scène de théâtre, vous avez eu d'autres vies. Vous êtes devenu metteur en scène de théâtre assez tardivement, peut-être vers la trentaine. Je me souviens de votre première mise en scène au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et vous avez été, pendant longtemps, théologien. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez fait des études de théologie.
Non, je faisais la philosophie plutôt. Il y avait un moment dans ma vie où je me suis peut-être posé la question si j'allais pas quitter l'université à Cracovie et que j'allais pas dans une université catholique qui était à Lublin, qui était plus protégée contre les influences, disons, du pouvoir de l'époque.
Mais vous n'avez pas songé à devenir prêtre?
Non.
Ou moine?
Non.
Jamais?
Non.
Mais vous avez toujours été traversé par l'histoire du bien et du mal.
D'être metteur en scène, c'est un peu...
Et d'être philosophe et metteur en scène, ça aide à aborder les problèmes de l'humanité, le bien et le mal.
Oui. Il n'y a pas le troisième.
Il n'y a pas de troisième. Mais il y a l'enfer, le paradis, il y a aussi le purgatoire.
Oui, dans une tradition.
À laquelle vous ne croyez guère.
Non, je préfère de croire plutôt la mythologie grecque avec leur Hadès à la pensée théologique chrétienne ou autre valable aujourd'hui, je veux dire.
Cependant, vous êtes très féru d'histoire religieuse et de comparatisme entre les religions. Et je me souviens que ce premier spectacle portait sur le Dibouk. Or, celui qu'on peut voir en ce moment même à Paris, donc cette odyssée scénario pour Hollywood, est traversée de nouveau, c'est quoi, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, par cette étrange figure du Dibouk. Qui est le Dibouk et à quoi ressemble le Dibouk, Christophe Warlikowski?
Mais écoutez, dans ma vie, ça a pris une autre dimension aussi. Le Dibouk, c'est une âme qui revient et qui peut pas aller de l'autre côté. Ça correspond un peu à cette vision laïque de Coetzee à la porte d'Elisabeth Costello. Donc on se trouve devant la porte, on peut pas passer. Ça existe aussi chez Kafka, la porte dans son procès. Donc les deux histoires sont parallèles. Après, dans la tradition juive, il y a ce fameux texte, Dibouk, un texte fondateur pour le théâtre en yiddish. Et en fait, tout ça que je connaissais s'est rencontré avec plusieurs autres choses. Anna Kral, à l'époque où je faisais ce Dibouk, Anna Kral avait écrit un reportage qui s'appelait Dibouk. Et ce reportage, c'était un point de départ pour construire la dramaturgie ou plutôt de faire deux Dibouk, de faire le Dibouk ancien en yiddish, c'est-à-dire traduit en polonais, et son Dibouk reportage. Mais en fait, ça a des racines encore plus tôt dans ma pensée, parce que la première fois où je faisais Shakespeare, et là, il y avait la question, dans Hamlet, il y avait la question de fantôme, le spectre du père. C'est là où, pour la première fois, j'ai pensé à Dibouk, pragmatiquement, théâtralement. Je me suis posé la question comment je vais représenter des fantômes, des dieux, dans le théâtre à venir.
C'est peut-être pour ça que vous faites du théâtre, Christophe Warlikowski, pour essayer de rattraper cette âme errante. Et quand vous écrivez ce que j'ai lu en tout début d'émission, « Quand je reviendrai, je serai déguisé, je porterai un autre nom, mon retour sera inattendu, vous me regarderez incrédule et me direz « tu n'es pas là », c'est peut-être aussi une référence implicite ou explicite au Deep Book.
Puisque ça finit avec le Deep Book. Et puisque vous voyez de la situation où je me suis retrouvé avec ce début, avec Ulysse, c'est que Ulysse, pour qui je faisais le spectacle, était mort après un an, depuis le début des répétitions. Donc vous voyez, j'étais dans une drôle de situation par rapport à qui allait être cet Ulysse pour qui je pensais cette Odyssée.
Alors, la mort est omniprésente dans toutes vos mises en scène, et ce depuis le début. Vous parliez de Shakespeare tout à l'heure, je rappelle que vous avez mis en scène la totalité des pièces de Shakespeare et que vous allez reprendre Hamlet bientôt à Paris. Mais la mort, depuis le début, elle est présente dans vos mises en scène, comme si vous vouliez représenter ces âmes errantes, ces fantômes sur le plateau. Or, le théâtre, par définition, c'est du visible. Mais quand on voit vos mises en scène, on a l'impression que vous faites du théâtre pour essayer d'approcher l'invisible.
En fait, cette première question de comment représenter le spectre de Hamlet, ça m'a fait penser à toutes les mises en scène de Shakespeare ou des mises en scène de Bacchante que j'aurais vues à l'époque. Et vous voyez, on accompagne un spectre avec de la lumière bleue, on accompagne avec de la fumée, on accompagne avec un cheval. Et toute cette tradition théâtrale qui cherche désespérément à trouver une façon. Tandis que moi, j'ai jamais pensé qu'on pouvait vraiment arriver là. J'étais très modeste avec mes fantômes. je croirais pas à des fantômes trop évidents. Donc il fallait chercher et creuser avec des choses vraiment minimales, comme la première fois, le spectre, c'était plutôt la salive de l'acteur qu'on voyait pas, qui parlait très près de Hamlet. Et à la fin de cette scène, il l'a couvert avec la salive. Donc, c'était ça le fantôme. Et c'est surtout cette nouvelle, on peut appeler les reportages d'un acral nouvelle. Donc ce reportage, ça parle de cet homme qui est né en France, du deuxième mariage de quelqu'un qui va aller en Amérique. Et alors ce fils est élevé en Amérique et qui découvre dans sa vie une voix qui parle polonais en lui. Et c'est comme ça que ça commence cette histoire. Et en fait, il apprend qu'il avait un petit frère du premier mariage de son père. Et à partir de là, il commence à creuser ça, ça devient une obsession. Et Anacral le rencontre. En fait, Anacral dit que les histoires viennent toujours la chercher. C'est les gens qui avaient besoin de lui dire, raconter leurs histoires. Donc là, il y avait une scène chez le thérapeute. C'était un thérapeute très spécial. C'était un juif qui a fait Kabbalah. Après, c'était un bouddhiste qui a fait des années de... Donc, c'était quelqu'un qui était dans beaucoup de traditions et qui voulait l'aider. Et pendant cette séance d'exorcisme, disons, entre guillemets, effectivement, le gars, il a commencé à pleurer et l'autre, il a trouvé le contact avec cette personne qui pleure dans le corps de son patient et il le guidait vers la lumière et cet autre être voulait sortir vers la lumière et après le frère, il a arrêté, il s'est réveillé, il est sorti de cette hypnose, il a arrêté ça, il disait qu'il pouvait pas chasser son frère. Donc, en ayant un témoignage aussi concret, après, quand on revient au théâtre, on tremble à l'idée de représenter théâtralement ce genre de phénomène. Donc c'est resté pour tous mes spectacles après où apparaissent.
C'est une atmosphère que vous créez à l'intérieur de la totalité de vos mises en scène, et ce depuis le début, Christophe Warlikowski, où la mort rôde absolument en permanence. Elle n'est pas vraiment là, mais elle est tapie dans l'obscurité. Et puisque vous parliez de danger à faire du théâtre, vous avez d'abord monté ce spectacle une première fois à Varsovie, je crois, en Pologne, puisque vous êtes d'origine polonaise. Et puis vous le donnez en ce moment même à Paris. Donc au centre du récit, comme le titre l'indique, il s'agit d'Ulysse. Ulysse qui revient. C'est le thème du retour que vous abordez. Et vous avez choisi de prendre un acteur polonais qui est un homme qui appartient à votre troupe. Tous vos comédiens sont exceptionnels. Et cet Ulysse que vous avez choisi, c'était un vieux monsieur qui faisait partie de la troupe. Mais Ulysse est mort. L'acteur est mort. Comment vous avez reçu ça? Et comment avez-vous pu remplacer votre Ulysse?
Ben écoutez, c'était un moment assez difficile parce que c'était la deuxième année. Donc on est revenu en répétition après qu'on a repoussé les répétitions d'un an. Et effectivement, cet Ulysse, c'était urgent. Parce que je pensais à Zygmunt Malanowicz, qui était cet acteur d'ailleurs qui a joué dans Couteau dans l'eau, le premier long métrage de Polanski. Donc ça paraissait impossible. L'ensemble était dans un moment très difficile.
Pendant le confinement.
Pendant le confinement. C'est surtout les hommes qui supportaient très mal ce confinement. Quand on est revenu au théâtre, on s'est rendu compte qu'on est un peu fou. Il y avait encore Zygmunt. Donc Zygmunt, avec son âge, c'était un peu autorité parmi nous qui nous remettait debout dans ce genre de situation. On a recommencé à répéter, il est mort, il était à l'hôpital. Donc déjà à l'hôpital, on s'est posé la question, on savait pas trop quoi faire. Donc là, la seule suggestion, c'était que cette Odyssée n'était pas faite pour l'Ulysse tel qu'il le représente au maire, mais il s'agissait de Zygmunt, et bien sûr, derrière lui, il s'agissait de moi. Parce que mon âge, je peux le compter doublement.
Bah, vous avez quel âge? Vous avez l'impression d'avoir l'âge d'Ulysse?
Probablement. Sauf que n'oubliez pas que dans le passé, c'était un autre âge. L'âge devient relatif aujourd'hui. Donc, il s'agissait de lui et de moi. Donc, quand il y avait que moi qui reste, je pensais seulement qu'après la perte de quelqu'un que je connaissais tellement bien, avec qui j'ai passé 20 ans à discuter, à créer, à avaler son monde aussi, je ne pouvais que faire encore plus âgé, et surtout je voulais pas me rencontrer avec des acteurs qui viennent des traditions différentes. Donc lui, il était presque trop âgé pour avoir une seule tradition. En fait, c'est un homme qui était pas très détruit par le théâtre. Il a travaillé avec Shaina, donc un gars qui est sorti qui a survécu au camp de concentration et qui dans les années 50 a commencé à faire des premiers spectacles en essayant de représenter l'horreur de Shoah. Donc c'est quelqu'un qui aussi probablement
un survivant.
Il a collaboré avec ce metteur en scène. Ses premiers spectacles jeunes, il a fait avec ce metteur en scène qui est sorti de Shoah. À ce moment-là, c'était évident que lui, il commence une grande odyssée de sa vie aussi. Parce qu'il a 92 ans. Et ça le renvoyait à ses premières expériences avec Shaina et à ses années 50 en Pologne.
On voit bien que le théâtre en Pologne, faire du théâtre en Pologne, ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire du théâtre en France. et que les fantômes, effectivement, sont nombreux, est-ce que c'est dangereux de faire du théâtre aujourd'hui en Pologne, dans ce pays où la culture est quand même extrêmement bâillonnée? Vous avez réussi, Christophe Warlikowski, à avoir toujours ce lieu à l'intérieur de Varsovie, parce que ce lieu n'est pas financé par le gouvernement polonais, mais par la municipalité de Varsovie.
Écoutez, on passe par un moment très important. Je veux dire, ça a commencé dans les années 90, on est devenu un jeune pays, une nouvelle Pologne. À partir de 2015, cette nouvelle Pologne commence à être sabotée par le gouvernement en pouvoir maintenant, comme ce gouvernement sabote l'Europe et tout ça. Mais ça ne fait que la résistance encore plus grande. Donc on peut pas dire que la vie culturelle ou questionnement permanent cesse une seconde en Pologne. Au contraire, je pense que ça pousse les Polonais à être de plus en plus plus fort et attentif à ce qui se passe.
Alors justement, j'ai une archive à vous faire écouter, Christophe Warlikowski. Il s'agit d'un reportage sur l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. C'était le 1er mai 2004. Écoutez.
Concert hier soir à Varsovie sur la grande place du château. C'était le rendez-vous de plusieurs milliers de jeunes bien décidés à fêter leurs premiers instants de citoyens européens.
J'attendais ce jour depuis des années. Et vous savez, je me sens européen depuis toujours.
Maintenant, nous avons la possibilité de voyager et de faire des études à l'étranger, partout en Europe. Alors on est heureux, enthousiaste. Plus de recueillement lors de la cérémonie officielle de montée du drapeau européen. Monseigneur Glem, qui a soutenu le mouvement Solidarność dans les années 80, n'a pu retenir une larme. Pour beaucoup de Polonais, ce 1er mai est l'aboutissement d'un long combat. Changement d'ambiance, ce matin, le pavé était occupé par les partisans de la Ligue des familles polonaises, mouvement catholique conservateur violemment opposé à l'Europe, au point d'en salir l'emblème.
Si l'Union européenne était notre alliée, et si elle nous voulait du bien, elle n'aurait pas commencé par détruire nos usines.
Autour de cette date symbolique du 1er mai, chacun ici a pu s'exprimer démocratiquement. Cela n'a pas toujours été le cas. Maintenant, ce choix européen devra être assumé par les 38 millions de Polonais.
On entend bien dans cette archive qu'il y avait deux types de Pologne en 2004. Nous sommes aujourd'hui donc en 2022, au moment où la guerre en Ukraine a profondément modifié la vie quotidienne en Pologne. Je rappelle que c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens en ce moment. On a l'impression que le gouvernement polonais se comporte comme un gouvernement européen modèle par rapport aux Ukrainiens, et en même temps, la répression continue, à la fois sur l'avortement pour les femmes, à la fois sur la communauté LGBT, à la fois sur la culture. Comment comprendre toutes ces contradictions, Christophe Warlikowski?
Ça remonte à l'époque du communisme. En fait, au moment où il y avait l'opposition qui se formait, cette opposition qui va gagner et qui va détruire le mur à Berlin plus tard, cette opposition était très complexe. Il y avait des ouvriers, il y avait des intellectuels qui collaboraient ensemble, mais il y avait l'Église qui était dans l'opposition. Donc au moment où tous ces gens-là sont arrivés au pouvoir, ils ne pouvaient pas séparer l'Église. Donc ça a commencé avec ce geste symbolique horrible de Wałęsa, qui a accroché dans le Parlement, qui dans un pays laïque comme Pologne, la croix. Et à partir de ce moment-là, on peut pas se débarrasser de l'Église qui met toutes ses pattes à l'intérieur de la vie de Pologne.
Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la guerre en Ukraine modifie-t-elle le sentiment européen dans votre propre pays, la Pologne?
Écoutez, pour ce qu'il y a de la guerre, c'est plutôt une initiative sociale, c'est la société qui veut les aider. Le gouvernement, c'est, vous voyez, juste quelques mois plus tôt, il y avait la vague d'immigration par Biélorussie. L'Europe la Pologne première a préféré le silence sur tous ces morts à la frontière. En fait, la Pologne a construit un mur et c'était avec l'accord de l'Europe. Donc ça, c'était la première malédiction de cette année qui est tombée sur cette société qui a ressenti le dégoût pour elle-même. Et au moment où éclate la guerre en Ukraine, ils sont prêts à tout donner. Vu ce qu'on a vécu quelques mois plus tôt où ils étaient désarmés. Ils savaient qu'il y avait les gens qui mouraient à la frontière. Et c'était un interdit total. Il n'y avait même pas les Croix-Rouge, rien qui pouvait être près de la frontière. Donc il y avait cette malédiction qui était sur cette société au moment où a éclaté la guerre en Ukraine.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Christophe Warlikowski, Leonard Bernstein, Masterclass sur Tchaïkovski.
Tchaïkovski was a composer who always tried to do this, who always tried to have his music mean something easily recognized as emotional. Take this part of his fourth symphony, for instance. I guess the best way to describe that would be by saying that it has the feeling of wanting something very badly that you can't have. Did you ever feel that you wanted something more than anything else in the world? And you said so, and they said, no, you can't have it. And you said again, I want it. And again they said, no. And again you said louder and more excited, I want it. And again louder, I want it. Until it seemed that something would break in your head and there's nothing left to do but cry. Well, that's like this music. Listen. I want it. Finally, something breaks in your head, and you cry. Now listen to the orchestra play it and see if you don't feel something like those emotions.
Merci de nous avoir permis d'écouter ce document assez exceptionnel de Leonard Bernstein, donc qui dirige un orchestre. Alors on sait, Christophe Warlikowski, que vous êtes aussi un metteur en scène d'opéra, que vous avez réenchanté l'opéra avec des codes hyper modernes et là aussi très sexy. On dit souvent que les metteurs en scène d'opéra qui ont révolutionné la perception de l'opéra aujourd'hui s'occupent du corps des chanteurs, des chanteuses, mais on dit moins qu'il collabore avec les chefs d'orchestre. Pourquoi avez-vous choisi ce document magistral ? L'émotion, l'importance de l'émotion.
Ce qui était touchant dans tout ça, c'était de penser à des années 50, 60 en Amérique, à penser à un destin comme celui de Leonard Bernstein, fils des émigrés juifs de Russie, C'était aussi cette idée d'imaginer ce genre de cancer passé dans la télévision. Donc on est vraiment très loin de cette époque où Bernstein aurait pu prendre des heures à la télévision pour parler de la musique, en plus de parler de la musique aux enfants. Donc là, il s'adresse aux enfants, il parle des émotions, il veut leur ouvrir ce monde qui est l'un des mondes essentiels dont on dispose dans la vie. Il parle des émotions. Il parle aussi d'une manière très voilée. C'est seulement pour les connaisseurs de biographie de Tchaïkovski qui peuvent comprendre qu'en fait, il dit aux enfants, là, si vous vous sentez différent, n'ayez pas peur de le dire. Si vous vous sentez, je dirais directement homosexuel, comme dans le cas de Tchaïkovski qui a dû mentir toute sa vie, donc il racontait les histoires de Pushkin, à la place des siennes. Ça, c'est incroyable. Et dans le cadre de cet opéra de Bernstein qu'on a fait il y a 2 mois à Paris...
Vous nous avez fait découvrir un autre Bernstein totalement inconnu.
Voilà, un Bernstein qui parle de la famille. Donc on revient chez les Grecs, sauf que cette version de famille, ça correspond, c'est les années 81-83, et ça correspond à ce qui va venir avec Kouchner, avec Angels in America, où on voit le sujet arriver dans le théâtre. Sauf que Bernstein, il était le premier... Et il parle pour la première fois dans l'opéra d'une famille où le personnage principal est un homosexuel.
Et ça, effectivement, ça a été une grande découverte, votre mise en scène de Leonard Bernstein il y a maintenant 2 mois à l'Opéra Garnier à Paris. Il y a toujours la même technique chez vous, Christophe Warlikowski, c'est-à-dire l'entremêlement de différents univers et de différents textes. Et pour cette pièce qui commence en ce moment même à Paris... Donc l'Odyssée, un scénario pour Hollywood, vous avez tissé ensemble des textes de plusieurs auteurs, qui sont vos auteurs fétiches, car ce n'est pas la première fois que vous utilisez Homère, que vous utilisez Anna Krall, dont vous avez beaucoup parlé, qui hélas est assez peu connue en France, je crois qu'elle est très reconnue en Pologne, mais assez peu connue en France. Je vous propose de l'écouter. Anna Krall, qui va parler de son livre intitulé « Le livre du cœur » sur l'histoire de la jeune polonaise Isolda, histoire extraordinaire que vous racontez d'ailleurs à l'intérieur de ce spectacle, cette odyssée. Je vous propose d'écouter la voix d'Anna Krall, c'était le 11 janvier 2009 et c'était au micro de Pascal Rose.
Alors tout d'abord, ce n'est pas moi qui les cherchais, c'est elle qui m'a cherché et qui m'a trouvé. Et ça arrive très souvent avec mes héros, ce sont eux qui viennent me chercher et ce n'est donc pas moi. C'est tout simplement l'histoire de sa vie, le récit de sa vie avait besoin d'être raconté. Il y a des récits qui n'ont pas besoin d'être racontés et cette histoire-là, c'était évident qu'il fallait la raconter. J'avais l'impression que dans sa vie, tout s'est passé. Le décor, c'est la guerre. Mais ce n'est pas un roman sur la guerre. C'est un roman d'amour, comme je l'ai déjà dit. C'est un roman sur le fait que les hasards n'existent pas. Et c'est aussi le récit sur la supériorité de la folie sur la raison. Et en même temps, il y a tout dans cette histoire. Et mon héroïne avait exactement le même sentiment. Elle pensait que c'était une histoire qu'il fallait raconter. Et elle voulait le raconter parce qu'elle voulait que les gens s'en souviennent. La mémoire, c'est un besoin primordial. Raconter, ça veut dire rester dans la mémoire.
Ale ja bym powiedziała, że przede wszystkim
Je dirais plutôt que ce qui la faisait vivre, le moteur de son action, c'était surtout de sauver son mari. Elle était persuadée jusqu'à la fin de sa vie que c'était elle qui avait sauvé son mari. Or, en réalité, ce n'est pas vraiment elle. Elle était persuadée que ses sentiments pour lui, son énergie, faisaient qu'il restait en vie. Personnellement, je trouve que c'est elle qui a pu survivre grâce à lui.
Il est beaucoup question de la guerre dans votre Odyssée, Christophe Warlikowski, de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration. On sait que la Pologne est toujours, je crois, antisémite aujourd'hui, je crois. En tout cas, beaucoup de traces d'antisémitisme encore aujourd'hui. C'est un problème que vous traitez frontalement à l'intérieur de votre théâtre depuis longtemps. Et à travers la voix de Anna Kral et à travers cette histoire d'Isolda, il y a aussi une revisitation de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous nous raconter l'histoire d'Isolda? Parce que Anna Kral vient de le raconter sans véritablement délivrer ce que fut son itinéraire de vie.
Vous voyez, j'ai rencontré Isolda Regensburg.
Vous avez vraiment rencontré Isolda?
Je l'ai rencontré
Isolda
dans les années 90. C'était un hasard. Anna Kral m'appelle. Elle me dit, si vous voulez rencontrer quelqu'un d'intéressant, vous venez nous joindre. Et elles étaient là. Donc, elle venait régulièrement à Varsovie. Depuis son immigration en 68. Et quand ils ont commencé à collaborer avec Anna Kral, elle se voyait très souvent. Moi, j'étais là, à part le fait qu'elle m'a dit bonjour en mettant la main sur mon visage, en me disant « Vous êtes un bel homme. »
C'est vrai.
Donc j'étais témoin d'échanges entre Anna Kral et Isolda Regensburg. Elles se disputaient sur le contenu de ce, parce qu'en fait elle a écrit ce livre qui devait être base du scénario que l'autre n'a pas aimé. Après, elle a laissé un reportage à Anna Kral.
Donc sur l'histoire de Isolda qui a voulu par amour retrouver son mari qui était prisonnier dans un camp.
En fait, elle a sorti du ghetto d'abord. Ils étaient tous les deux dans le ghetto. Elle l'a sorti du ghetto. Après, il était, je crois, à Auschwitz. Par erreur, il s'est fait prendre pour un Polonais. Ils l'ont renvoyé à un autre, à Mauthausen, un camp où il était pris pour un Polonais. Elle, pendant ce temps-là, elle a teint les cheveux, elle a changé la voix, elle a pu survivre dans la société parce qu'elle a pris la voix d'une vendeuse de légumes, une paysanne. Elle a une bonne oreille, donc elle parlait très bien. Elle parlait très bien polonais, c'était sa langue. Mais en plus, elle avait cet accent d'une paysanne, donc ça l'a beaucoup aidé à camoufler un peu ses origines juives. Donc elle fait cette odyssée en passant par les prisons, en essayant de sauver la mère, sa mère et sa famille, en essayant de sauver la mère et le père et les sœurs, les quatre sœurs de son mari. Et elle fait ça pendant des années, elle les perd, mais le moteur de survie, Anna Kral dit qu'elle a presque survécu parce qu'elle avait à sauver surtout son mari. Donc à un moment, elle-même, elle se retrouve à Auschwitz.
Ce que vous montrez dans votre pièce.
Donc elle tourne dans tous les camps, une juive qui n'a pas peur et qui essaie de sortir son mari. Ce qui se passe après la guerre, brièvement, il rentre en Pologne où ils se disent, c'est le mari, il dit, est-ce que tu comprends que tout le monde pense ici que je suis polonais? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il voulait dire que à partir de là, on est polonais avec des noms polonais. Il faut
on personne, change d'identité.
Il faut pas que qui que ce soit sache nos noms et tout ça. En 68, avec la vague de d'antisémitisme et avec la guerre de 6 jours en Israël, les juifs polonais se font chasser. Il y a à peu près 20 000 qui sont partis de Pologne sans passeport polonais. Et dont eux, ils vont à Vienne, ils ouvrent un magasin de jeans. Et après quelques années, il la quitte. Il peut pas lui pardonner de ne pas avoir sauvé la vie de ses 4 sœurs. Donc il est un peu de plus en plus hanté par cette culpabilité de d'avoir survécu et non pas les autres. À partir de là, elle rentre, elle va, elle retrouve ses vies en Israël. Et à partir de là, la préoccupation de sa vie, c'est d'immortaliser sa vie, de laisser ce livre qui ferait un film, et le film jouera
pour Hollywood. D'où le sous-titre de votre pièce.
Taylor, voilà.
Interprétée par Elizabeth Taylor, que vous montrez sur le plateau de cette nouvelle mise en scène, Christophe Warlikowski. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui se déroulent parallèlement sur l'espace de votre plateau, qui, comme souvent, est un plateau allumé frontalement avec des grandes cages d'acier qui permettent aux spectateurs de cohabiter aussi dans différentes temporalités, mais aussi dans différents espaces géographiques. Il y a toujours cette question du bien et du mal, et il y a toujours cette question du retour. Homère raconte l'histoire d'Ulysse. Ulysse rentre. Toutes ces histoires que vous nous racontez sur votre plateau du théâtre, ce sont des histoires de retour. Cette histoire d'Isda qui veut retourner à son histoire pour qu'elle soit immortalisée et interprétée par Elizabeth Taylor, finalement elle est déçue par ce que l'écrivaine Anna Krall va en faire. Elle est déçue par le récit que l'écrivaine va faire de sa propre histoire. Est-ce que une des questions qui se pose après avoir vu votre spectacle, c'est est-ce que la fiction peut rejoindre une réalité quand elle est aussi riche, aussi extraordinaire, aussi prolifique, et qu'elle raconte l'histoire d'une femme exceptionnelle ?
Écoutez, de toute façon, c'était difficile et facile, parce que une fois, j'ai pris la décision de faire Odyssée, histoire pour Hollywood, je me suis retrouvé devant une proposition qui était juste impossible dans le théâtre. Ni l'Odyssée de Homère, ni la narration de reportage non-fiction-fiction de Anna Krall, c'était pas le médium de théâtre qui pouvait... Donc on aurait pu faire l'Odyssée à Hollywood, on aurait pu faire un film sur l'Holocauste en parlant d'Isolde Regensburg. Donc c'était pas pour moi. C'était pas possible pour moi. Donc l'idée c'était de faire 2 films en parallèle à Hollywood. Une possibilité de l'Odyssée et une possibilité de histoire d'Isolde Regensburg. Mais en même temps, ça m'a soulagé d'avoir compris que je pouvais pas raconter ni Homère ni Anna Krall vraiment. Donc, il y a eu d'autres sorties pour ce spectacle. Il y avait d'autres thématiques et bien sûr tous les personnages réalistes qui reviennent, qui peuplent le plateau, c'était aussi ma réponse au silence de théâtre de 2 ans du temps de Covid. Donc il fallait que tout ce monde revienne, que il fallait être certain que ce monde a existé avant nous.
On en revient aux fantômes, hein, Christophe Warlikowski.
Oui.
Vous n'êtes plus un fantôme, le Covid est, j'espère, bien terminé.
Non, bien au contraire, je lutte avec cette amnésie qui aurait pu apparaître avec Covid. Une amnésie que cette guerre avec l'Ukraine va faire dans nos cerveaux. Donc, il fallait bien que je me rassure avec ce spectacle. Et c'est pour ça que je rentre pas dans les narrations géantes comme Homère ou Anna Krall, parce que je pourrais jamais y assouvir. Mais par contre, c'est une occasion pour me poser plein de questions de la fin encore.
De la fin.
Ouais.
De la fin de l'existence.
De la notre fin avenir aussi de l'humanité monde aussi. Encore, parce qu'il y avait
quel
un
monde,
monde de Proust que j'ai pleuré.
Alors, il je rappelle que vous avez monté la recherche du temps perdu de manière absolument magnifique et j'espère qu'un jour ce spectacle sera repris.
Donc, j'ai tous mes morts que j'ai pleuré et il fallait que je continue.
Il y a aussi beaucoup d'énigmes. Homère, c'est celui qui nous raconte des histoires et ce, depuis qu'on est tout enfant jusqu'à notre dernier souffle. Mais il y a beaucoup d'histoires dans votre histoire, telle que vous nous la restituez sur ce plateau du théâtre, au théâtre de la Colline en ce moment. Il y a aussi des énigmes dans cette histoire. Et l'énigme, c'est celle du bien et du mal qui traverse encore une fois le plateau à travers l'histoire extraordinaire, elle aussi, de Hannah Arendt, la philosophe de la banalité du mal, qui revient en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle sait très bien que son ancien amoureux, pour ne pas le citer, Martin Heidegger, a été recteur de l'université de Freiburg pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il a adhéré au nazisme, qu'il a écrit des textes qui sont noirs sur blanc dans les cahiers noirs. Elle revient quand même en Allemagne, et là il se passe quelque chose que vous nous restituez sans savoir où est la vérité.
Oui. En fait, Anna Arendt qui revient en Allemagne, en 1950, donc la première fois après la guerre, elle revient en Allemagne. On sait très bien que cette relation qu'elle a eue avec Heidegger a été déjà interrompue dans les années 30. Ça devenait trop lourd pour Heidegger, donc ils se sont éloignés. Et de toute façon, les deux destins sont complètement séparés. Mais Anna Arendt, revenant en Allemagne en 50, elle fait les interviews dans la télé allemande.
Pour une organisation juive qui va financer la reconstruction de certains biens juifs en Europe.
Ça, c'est le but de cette visite. Mais n'empêche, elle revient en star de pensée et philosophie, ce qu'elle n'était pas 23 ans avant en Allemagne. Donc elle revenait aussi auprès de Heidegger, non plus comme sa petite étudiante, mais presque quelqu'un dont le nom commence à mettre Heidegger lui-même dans le crépuscule. Cette rencontre a eu lieu. En fait, mon raisonnement était très simple, puisque Homère, c'est surtout l'Odyssée, donc le chemin de retour. Une fois on arrive, on n'a plus rien à dire, à part le fait qu'on se reconnaît. Et en fait, c'était la continuation de Homère dans le sens, et alors qu'est-ce que vont se dire Pénélope avec Ulysse une fois retrouvés en Ithaque. Donc cette fois-ci, c'est Anna Arendt qui arrive en Ulysse et Pénélope, c'est Heidegger. Et on sait cette rencontre légendaire, on sait la date précise, on sait le temps qu'il faisait, on sent savoir exactement ce qu'ils se sont dit. Donc moi j'ai essayé, élève de Coetzee que je suis, de me lancer dans une écriture avec mes dramaturges, de faire une mystification, une possibilité d'une telle rencontre.
Merci infiniment Christophe Warlikowski. J'espère que vous avez trouvé votre Ithaque. En tout cas, bravo pour cette mise en scène de l'Odyssée, une histoire pour Hollywood. C'est jusqu'au 21 mai à Paris, au Théâtre de la Colline. Merci beaucoup.
te dire tout bas des choses maladroites que l'on ne dit qu'une fois, mais te les dire à toi et t'ouvrir grand mon âme pour t'offrir enfin tout, tout ce qu'il faudra, les rires, la flamme. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous, nous connaissons depuis 100 ans déjà. Oui, nous, nous dirons tout. Nous ne faiblirons pas. Je me plierai à tes ordres. Je serai fou de toi. Au doute, à la discorde, je dirai souviens-toi. Les rires, la flamme. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraints d'aucune loi. Et j'ai l'ennui de toi, oui j'ai l'ennui de ça.
Et c'est avec Baptiste Hamon, Je m'abandonne à toi, que nous allons nous quitter ce soir. Encore merci Christophe Warlikowski. Je rappelle que l'Odyssée, c'est en ce moment au Théâtre de la Colline, mais que bientôt à l'Opéra Bastille, ce sera votre Hamlet à partir de 2023. Faudra attendre un petit peu au Purgatoire. Merci à Antoine Teboul qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec qui? Mais vous le savez, avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.